Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 23 juillet 2025 et je vous préviens, ça sera un peu long ce matin. Alors si vous n'avez pas le temps, arrêtez tout de suite d'écouter, arrêtez de lire, allez faire autre chose. En commençant la semaine, on savait que ça serait relativement calme au vu du nombre de chiffres économiques qui étaient inscrits à l'agenda. Mais en même temps, on savait que tout pouvait arriver à cause des droits de douane. Sachant que la date butoir approchait gentiment et que, forcément, il allait se passer des trucs. Sans oublier le fait que nous sommes en pleine saison des publications trimestrielles, chose qui a le pouvoir de rajouter une couche de volatilité sur les marchés mondiaux. Du coup, la séance d'hier était la représentation exacte de ce que l'on savait lundi matin lors du café. Reste plus qu'à se concentrer sur ce qui nous intéresse au milieu de la torpeur de l'été. On va donc essayer de commencer par le début et essayer surtout de ne rien oublier d'important. Non, parce qu'il faut quand même bien comprendre qu'au-delà de l'actualité brûlante de la journée d'hier, la moitié des intervenants sont en vacances et donc ça cogite un max dans les cerveaux. Ce qui fait que j'ai l'impression que nous avons plein de réflexions sur l'état du marché et sur les constatations qu'il faut en tirer et qui apparaissent dans les médias. On peut donc s'y intéresser ou laisser tomber, puisque de toute manière, la moitié des réflexions qui sont publiées seront oubliées d'ici au 1er août, lorsque l'on saura tout sur les droits de douane. On peut rêver. Donc hier, l'aura pas terminé dans le rouge, on ne va pas se mentir, ça ne sont pas les publications du trimestre qui ont poussé les intervenants du côté obscur de la force, et ça n'est pas non plus la macro qui pesait. Alors oui, on a bien entendu deux ou trois experts qui sont venus parler sur le sujet de la BCE, et du fait que lors du dernier meeting de l'été qui aura lieu demain, Madame Lagarde devrait nous faire une Powell, à savoir ne pas bouger les taux directeurs de la BCE. Mais pour être franc, je sais bien que la finance n'est pas une science exacte, mais je doute que ce soit cette réflexion qui aille déclencher des ordres de vente. Je doute même que ça ait déclenché quoi que ce soit. Vous l'avez sûrement compris, la seule chose qui déprime les marchés, c'est le fait que l'Europe n'ait toujours pas annoncé de deal au niveau des tarifs douaniers. Il reste donc dorénavant 9 ou 10 jours, ça dépend comment on compte et quand est-ce que l'on compte. Toujours est-il que l'Europe, la grande Europe, va devoir trouver une solution avant le week-end prochain ou payer 30% de droits de douane sur nos exportations. Chose qui n'est vraiment pas envisageable économiquement parlant. Et chaque jour qui passe sans annonce fait monter un peu plus l'impression. Et si on ne trouvait pas d'accord, et si l'Europe tombait en récession, en perdant le client américain, et si Trump ne faisait aucun effort, et si l'Europe, aussi unie qu'elle veut bien le laisser entendre, ne trouverait pas moyen de se mettre déjà d'accord entre eux. Et bref, la longue litanie des questions qui ne servent à rien est sans fin et met la pression sur le marché européen de manière assez évidente. On doute. Et le doute ou l'incertitude sont les deux poisons du monde merveilleux de la finance, des cousins très proches qui ne permettent pas de trouver la joie et le bonheur sur les indices du vieux continent. Hier, la Suisse a perdu 0,36%, la France reculait de 0,69%, l'Allemagne plongeait sous les 1%, pendant que les Italiens étaient inchangés et que l'Espagne était le seul marché dans le vert. Pourtant, au vu de l'historique des droits de douane et de la volatilité mentale et intellectuelle du président Trump, il y a de quoi être optimiste. Jusqu'à maintenant, les droits de douane ont toujours été revus à la baisse et jamais nous n'avons réussi à atteindre la moindre deadline, puisqu'à chaque fois, la Maison-Blanche a repoussé la date butoir en signe de détente. Il n'y a qu'à voir, dans le cas de la Chine, ils nous ont pris la tête pendant des jours et des jours avec des taxes à plus de 200% pour finalement nous trouver une espèce de deal temporaire que personne ne comprend, puisqu'ils négocient encore. Et à chaque fois qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils repoussent la date butoir. Aujourd'hui encore, Bessent vient d'annoncer que, dans le cas des négociations avec leurs amis chinois, il se pourrait bien que le président Trump repousse encore la date limite, et qui est prévue le 12 août à une date ultérieure qui sera tirée au sort sur le calendrier de 2027. Ouais, je déconne sur le sujet du tirage au sort, mais on n'est pas très loin de la réalité. Quoi qu'il en soit, hier, l'Europe était stressée par la probabilité de ne pas trouver un accord et de se retrouver avec une montagne de caisses de Bordeaux invendables aux USA, ainsi que 30 000 Renault Zoé sur les bras que personne ne veut. Bon, en ce qui concerne les Renault Zoé, la bonne nouvelle, c'est que ça change à rien, parce que personne ne veut ni ne peut avoir délibérément envie d'acheter un truc pareil. Pourtant, autant ce stress est parfaitement justifiable de manière assez rationnelle, autant je suis convaincu qu'il est inutile de paniquer, parce qu'ils vont nous trouver un accord de dernière minute. Ils l'ont fait sur le Japon, d'ailleurs, cette nuit, Trump vient d'annoncer un deal à 15% all-inclusive avec les Japonais, et c'est même pour ça que le Nikkei est en hausse de 3% ce matin. J'ose donc imaginer que le président Trump et sa copine von der Truc, qui dirigent l'Europe d'une main de fer, avec le même sourire que Cruella dans les Sorins dalmatiens, vont forcément trouver un accord de dernière minute pour ne pas gâcher la fête du 1er août aux Suisses. Le principe du scénario hollywoodien devrait donc s'appliquer aux pays les plus importants d'ici au 1er août. Et puis au pire, si on ne trouve pas de solution, je crois que l'on peut compter sur Trump pour nous décaler la date butoir, mais uniquement pour les Européens, parce que les Européens sont ses amis et qu'il adore l'Europe, et tout spécialement la France et la vieille dame qui la dirige. Je me suis beaucoup étalé sur l'Europe parce que je crois qu'on parle beaucoup d'un sujet qui va sûrement se régler à la fin. Et du côté de New York, on se pose aussi pas mal de questions sur le sujet des droits de douane, mais ça ne nous empêche pas de monter quand même. Et ce, même si l'on entend dire que l'accord avec l'Inde sera compliqué à obtenir, et qu'en ce qui concerne l'Europe, on parle plus de rétorsion que d'accord dans les couloirs des banques de Manhattan. Mais bon, trêve de spéculation, à la fin, le S&P 500 a tout de même battu un nouveau record, pendant que le Nasdaq nous expliquait par le menu qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas monter si les Magnificent Seven n'y mettent pas du leur. En dehors de l'aspect droit de douane qui commence à les briser menu à tout le monde, il y avait aussi les chiffres du trimestre qui occupaient les gens en attendant d'en savoir plus sur la macro. Hier, Powell a parlé, mais comme prévu, il a parlé sans mentionner le moins du monde le sujet des taux d'intérêt, ce qui n'était pas une surprise. En revanche, il y avait à boire et à manger du côté des résultats. GM a foiré son trimestre et déclare que pour le moment, les droits de douane leur coûtent plus d'un milliard. Le titre dévissait de 8%. Du côté armement, Lockheed a foiré son trimestre après avoir pris une provision plus importante que prévu pour une histoire de fin de contrat et sur un de leurs produits, et malgré l'excellente période pour le business de l'armement, qui en plus est devenu un investissement responsable, la société s'est fait défoncer de près de 10% également. On notera aussi que Coca-Cola continue de se prendre le dollar dans les dents, mais ça ne l'empêche pas de livrer des résultats qui pétillent, bénéfice net en hausse de 58%, et un pricing power qui sauve les meubles malgré les volumes en baisse. Ils confirment leurs objectifs annuels avec un patron qui reste zen et qui annonce un Coca au sucre de canne. Mais ça n'a pas suffi aux intervenants. Ils n'ont pas parlé d'intelligence artificielle dans leur canette. Le titre était en baisse de 0,6% à la clôture. Mais au-delà des quelques chiffres qui ont été publiés et qui ont une importance toute relative, puisqu'ils dépendent surtout de l'interprétation qu'on en fait, on notera surtout que les intervenants commencent à prendre conscience du fait que le marché ne peut plus vraiment monter quand les Magnificent Seven et deux ou trois autres qui les entourent n'arrivent plus à monter non plus. Et hier, c'était flagrant. Microsoft était empêtré dans ces histoires de hacking et de SharePoint, et ça continue ce matin, puisque les hackers chinois sponsorisés par le gouvernement chinois selon les milieux autorisés ont encore attaqué la division nucléaire américaine. Oracle était sous pression parce qu'ils vont devoir investir encore plus dans l'IA pour continuer à bosser avec OpenAI. Et le reste, Google, Nvidia, Broadcom ou encore Amazon, étaient dans le rouge parce que, je cite, les intervenants ajustent leur position avant les publications trimestrielles. Bon alors, cette phrase, croyez-en mon expérience, c'est celle qu'on utilise quand on ne sait pas pourquoi ça baisse. Mais peu importe, on est en train de se rendre compte que les stars de la tech, sans les stars de la tech, le marché ne peut plus en avant. Dans ma vidéo d'hier sur la chaîne Swissquote en français, je suis revenu sur le concept du breath, en gros sur le rapport entre les titres qui montent et ceux qui baissent. Au cas où vous voulez revenir sur ce chapitre du breath, vous pouvez donc vous rendre sur la chaîne YouTube Swissquote en français. Il y a une vidéo qui a pour titre « Un marché qui meurt à petit feu mais qui bat des records quand même ». Et après 4 minutes 20, on parle du breath. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que lors du précédent record, celui de lundi soir, 50 titres étaient en hausse sur le S&P 500 alors que le reste était dans le pâté. On ne peut donc pas dire que c'est un marché qui profite d'une large participation, et on peut donc en déduire qu'en cette période de publication trimestrielle, nous sommes debout sur une planche savonneuse. Ce soir, Tesla et Google vont publier leurs résultats, et en cas de déception, ou pire, d'interprétation négative, le retour de Manivelle pourrait être désagréable. Nous sommes donc sur le fil du rasoir, positif comme jamais à cause de la tech et de l'avènement de l'IA, mais à risque de se prendre une volée de bois vert en cas de déception. Et les signes de fatigue du marché ne manquent pas. Je pourrais d'ailleurs en faire une chronique de 12 pages, mais tout le monde me reprocherait d'être trop négatif. Alors, on va se contenter de faire passer un message de prudence et on en reparlera à la rentrée scolaire après les publications de Nvidia qui sortiront le 27 août. Là, on devrait voir plus clair. Surtout que nous serons à quelques semaines de la nouvelle baisse des taux attendus de la Fed. À l'heure actuelle, 60% des experts pensent que Powell va baisser les taux. Enfin, s'il est encore là. Mais à ce sujet, les choses ont l'air de se calmer puisque Bessent a donné une interview hier pour expliquer que le gouvernement ne veut pas virer Powell et que c'est lui qui doit décider s'il veut rester jusqu'à la fin. Ça paraît bienveillant comme message, mais ça veut aussi dire « tu fais ce que tu veux, mais si l'économie part en vrille, c'est sur toi qu'on va tout mettre ». Pour le reste et pour ce qui est des nouvelles du jour, on va donc se concentrer sur le deal qui a été signé et annoncé entre le Japon et les États-Unis. Trump a annoncé un accord avec le Japon fixant des droits de douane réciproques à 15%. Le Japon investira 550 milliards de dollars aux États-Unis. Et selon Trump, les États-Unis toucheront 90% des bénéfices. Le Japon s'engage aussi à ouvrir son marché aux produits américains, y compris les voitures, les camions, le riz et autres produits agricoles. Quand on voit le partenariat, j'investis 550 milliards et sur les profits, je te file 90%, on sent bien que le concept de partenariat est une notion toute relative. Là, tout de suite, ça donne plutôt l'impression que c'est du racket, mais c'est mon avis personnel. Enfin, peu importe, c'est une bonne nouvelle et c'est de bon augure pour la suite. Reste à voir qui sera le prochain. Et du côté macro, même s'il n'y a rien, il y a quand même des trucs. L'indice avancé de l'économie américaine, le LEI, le Leading Economic Index, a chuté de 4% sur un an en juin, marquant sa 38e baisse sur les 40 derniers mois. Et sur le premier trimestre 2025, il a plongé de 2,8%, soit deux fois plus vite qu'au même trimestre en 2024. À ce trimestre-là, il était en baisse de 1,3%. C'est aussi le troisième mois d'affilée que le LEI envoie un signal de récession. J'insiste, de récession. Il faut donc chercher la raison de la baisse dans les commandes industrielles qui sont en berne, le moral des consommateurs qui est au fond du bac et les premières demandes d'allocation chômage qui sont en hausse. Et résultat, le LEI est maintenant à son plus bas niveau depuis 11 ans. Alors pour ceux qui veulent savoir ce que c'est le LEI, le Leading Economic Index, c'est un peu la boule de cristal du Conference Board. C'est un panier de 10 indicateurs censés prévoir où va l'économie US dans 6 à 9 mois. Et parmi ces indicateurs, il y a les nouvelles commandes de l'industrie, les inscriptions hebdomadaires au chômage, le moral des consommateurs, les permis de construire, les écarts de taux obligataires, les heures travaillées dans l'industrie et d'autres joyeusetés du style. Quand le LEI baisse de façon prolongée, c'est souvent le préambule d'une récession, historique à l'appui, et quand il chute aussi violemment que depuis 2022, ça sent pas le champagne pour l'économie. Mais même si les marchés, eux, sont parfois sur une autre planète, en bref, le LEI clignote rouge, mais pour l'instant, Wall Street fait la sourde oreille. Mais bon, moi je vais arrêter de ne trouver que des trucs négatifs, ça devient fatigant, j'en suis conscient. On peut encore parler des quelques nouvelles à retenir du jour, même si je vais en zapper quelques-unes au vu de la masse. Dassault Aviation a publié hier soir et voit son bénéfice net plongé de 30% à 334 millions, plombé par une surtaxe fiscale exceptionnelle en France. Une surtaxe exceptionnelle en France. Mais non. Alors on voit que l'enfer fiscal continue de faire son boulot comme un chef. Mais passons, le business reste en plein boom. Chiffre d'affaires plus 12%. Carnet de commandes record à 48,3 milliards et carton plein pour le Rafale, notamment avec l'Inde. L'ombre au tableau. Les menaces de droits de douane US à 30%, bien sûr, on ne s'en lasse pas, et qui pourraient casser les ailes des Falcons aux États-Unis. On notera surtout que 533 rafales ont été commandées depuis le début du programme, dont 26 rafales marines signées par l'Inde ce semestre. Un tournant stratégique majeur pour Dassault. Chez SAP, on a également publié, ils ont explosé les compteurs au premier semestre avec un bénéfice net de 3,48 milliards d'euros contre 68 millions l'an dernier. Le chiffre d'affaires grimpe à 18 milliards plus 10% porté par la croissance du cloud qui reste la priorité absolue pour 2025. Le groupe vise jusqu'à 21,9 milliards d'euros de revenus cloud cette année, preuve que l'Allemand a bien réussi son virage numérique. On retiendra surtout que le bénéfice a été multiplié par 58 en un an. Oui, 58. Par contre, l'interprétation qu'on en fait est discutable. Hier soir, le titre perdait 3% after close. Autrement, Philip Morris a déçu sous son trimestre. Apparemment, les ventes de sachets de tabac qu'on se colle entre la lèvre et la gencive ont déçu les analystes. On parle pas des suppositoires et moi, je pensais pas écrire ça un jour. Le titre perdait 8% après la nouvelle. Et puis, on terminera avec Texas Instruments qui a sorti des résultats corrects, mais des prévisions molles, plombées par une demande faiblarde en puce analogique et un contexte géopolitique bien pourri. Le marché n'a pas aimé. 12% de baisse after hours malgré des ventes Q2 supérieures aux attentes. Les perspectives du T3 déçoivent, les marchés sont sous pression et les droits de douane à venir foutre le bazar dans les chaînes d'approvisionnement. Texas Instruments prévoit de dépenser 60 milliards pour booster sa production américaine, mais en attendant, les marges stagnent, les clients hésitent et l'environnement tarifaire rend tout le monde très nerveux. Pour boucler cette chronique, Trop grosse chronique. On retiendra que le Japon est en hausse de 3% grâce à Trump, que le reste de l'Asie suit le mouvement dans une moindre mesure. Hong Kong est au plus haut depuis 2021. Le pétrole est à 65,55. Faiblard à cause d'un éventuel ralentissement économique dû aux droits de douane. L'or est au plus haut de tous les temps. L'argent et le cuivre aussi. Le Bitcoin est à 119 000 $ et le rendement du 10 ans est à 4,367%. Aujourd'hui, on attend les nouvelles ventes de maisons et les inventaires pétroliers. Et puis côté société, on citera Alphabet, Tesla et IBM et Chipotle. Et ça sera ce soir. Et puis en Europe, on regardera Thales, l'égérie de l'investissement responsable en France. Parce que quoi de mieux que d'investir dans l'armement quand on est vraiment responsable au sujet de la planète. Pour le moment, les futurs sont en hausse de 0,25% et on attend le prochain deal annoncé par Trump. Passez une excellente journée. J'ai déjà été beaucoup trop long. Je vous laisse vaquer à vos occupations et je vous vois vendredi pour une chronique estivale passionnante. Je n'en doute pas. À vendredi.